Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui a un certain écho dans l'actualité du moment, puisqu'il est question de porter secours à des réfugiés et de les accueillir dans notre pays. C'est une histoire de la fin des années 70, l'histoire d'un bateau qui s'appelait l'île de Lumière et qui est allé secourir les boat people vietnamiens qui fuyaient la prise du pouvoir par les communistes dans le sud du pays à la fin de la guerre du Vietnam. Et je vous préviens, si vous n'avez pas connu cette époque ou si vous avez oublié, vous allez sans doute halluciner quand je vous raconterai la résistance d'une bonne partie de la gauche à s'engager dans cette opération. Pour débriefer cette histoire, qui de mieux que celui qui l'a imaginé, cette île de lumière, mener cette opération d'un bout à l'autre dans une certaine adversité, au moins au début. Bonjour Bernard Kouchner.
Bonjour.
J'aurai beaucoup de questions évidemment à vous poser après ce récit que j'ai écrit avec Ségolène Anoto, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Avril 1975, après 20 années de guerre civile, les communistes du Nord-Vietnam, les Viet Cong, ont gagné leur guerre contre les Américains qui occupaient le Sud. Les chars Viet Cong entrent dans Saigon, la guerre du Vietnam est terminée. Et c'est là que commence notre histoire, au moment où le drapeau rouge flotte sur Saigon, qui devient Ho Chi Minh Ville.
Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Minh. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils ont des canons braqués.
Ah, oui.
Ils saluent la population. Vous êtes content qu'ils soient arrivés? Les chars sont amicaux. Ils saluent la population. Incroyable, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, moi, je pense comme vous.
C'est fini la guerre, alors?
C'est fini.
La guerre est finie, mais les Vietnamiens communistes du Nord, qui viennent de prendre le pouvoir à Saigon après 20 ans de guerre, ont des comptes à régler avec ceux du Sud. Il va falloir les mettre au pas, leur enseigner les valeurs du communisme. Et donc, on ouvre des camps de rééducation. Et donc, on confisque les biens des riches. À partir de ce moment-là, les Vietnamiens du Sud n'ont plus qu'une idée, fuir. Par milliers, ils montent sur des bateaux, toutes sortes de rafios, des gros, des petits. Il faut débourser entre 2000 et 3000 dollars pour monter à bord. Les scènes de départ sont dantesques. Des familles entières, effrayées, prennent la mer. Leur idée est de trouver refuge en Malaisie, en Indonésie ou en Thaïlande. Mais horreur, la plupart des pays de la région leur ferment la porte. Seule la Malaisie les accepte au compte-gouttes.
Nous avons pris des sampans, des packs, et puis après ça, le bateau de pêche.
Vous étiez combien sur ce bateau de pêche là, qui a quitté le Vietnam?
76 personnes, dont 25 enfants. Et puis un enfant de 8 mois aussi, et une femme enceinte.
Et le voyage a duré longtemps?
3 jours et 2 nuits. Les communistes ne nous laissaient pas vivre.
Pendant 3 ans, vous entendez 3 ans, l'Occident ferme les yeux sur ce drame humain épouvantable. Un tiers des boat people va mourir en mer. Pourquoi? Oh, tout simplement parce qu'en 1975, 76, 77, il est impensable d'envisager que le communisme soit une folie. Dans ces années-là, la gauche, et notamment la gauche française, est aveugle. C'est un reportage à la télé, diffusé le 8 novembre 1978, 3 ans plus tard, au journal de 20h, qui va enfin ouvrir les yeux d'une partie de la gauche. Le reportage raconte l'histoire d'un rafio rouillé, le Hai Hong, qui erre depuis 3 semaines en mer de Chine, avec 2564 réfugiés sud-vietnamiens à son bord. Il voulait les déposer en Malaisie, mais la Malaisie est saturée de réfugiés. La Malaisie n'en veut plus. Alors le Hai Hong fait des rondes en l'eau avec plus de 2000 personnes à bord.
Depuis 3 semaines, ils sont ballottés par la houle, brûlés par le soleil, entassés sur le pont et dans les cales, avec la faim au ventre et la maladie qui guette. 2 femmes qui ont accouché jeudi dernier sont trop faibles pour allaiter leur bébé. Un véritable calvaire pour ces fugitifs du Vietnam, parmi lesquels il y a 1260 enfants et 680 femmes.
Donc ce reportage passe à la télé, et dans la soirée, le téléphone sonne chez le docteur Kouchner. À l'époque, c'est un jeune gastro-entérologue de 39 ans, il a participé 7 ans plus tôt à la création de Médecins Sans Frontières. Au bout du fil, un couple d'intellectuels, les Broyel.
Bonsoir monsieur Kouchner, Jacques Broyel à l'appareil. Je suis avec ma femme Claudie. Pardonnez-nous, il est tard, mais vous avez vu le reportage sur les réfugiés du Hai Hong, aux 20h ?
Oui, je crois que tout le monde l'a vu. C'est terrible, hein ?
Ça fait des mois qu'on essaye d'alerter sur la situation au Vietnam. On veut faire quelque chose, alors on a pensé à vous. On a vu ce que vous avez fait au Liban, au Biafra avec Médecins Sans Frontières. Vous êtes des nôtres ?
Oui, bien entendu.
Alors venez demain soir, on réunit des amis.
Et donc, le lendemain, le docteur Kouchner débarque dans cette drôle de réunion. Il y a des dissidents soviétiques, des Vietnamiens qui ont réussi à se réfugier en France, des intellectuels comme le jeune philosophe Bernard-Henri Lévy. Et c'est lui d'ailleurs qui prend la parole le premier.
Il faut frapper les esprits. Je sais pas, pourquoi ne pas attaquer l'ambassade du Vietnam, ici à Paris? Mais les réfugiés se noient. C'est pas l'urgence, Bernard. On dit que la moitié de ceux qui partent n'arrivent jamais nulle part. Depuis 1975, la France a accueilli 50 000 réfugiés. Elle doit faire plus. Et si on y allait? Et si on y allait? Si on envoyait un bateau là-bas, en mer de Chine, pour les repêcher?
C'est le docteur Kouchner qui vient de parler. C'est son idée. Affréter un bateau qui naviguerait dans les eaux territoriales et porterait secours aux Vietnamiens. Et très vite, les réunions s'enchaînent. Un comité, un bateau pour le Vietnam est créé. Et jour après jour, il reçoit le soutien de personnalités de tous bords. De droite, bien sûr, mais aussi de gauche. De cette gauche qui a ouvert les yeux. Dans le salon enfumé où se tiennent les réunions, l'arrivée de personnalités nouvelles est accueillie par des applaudissements.
Messieurs, dames, Montand est avec nous. Il vient avec Signoret. Et on espère Bardot. Je viens de voir Jean-Paul Sartre. Vous savez quoi? Il signe sans aucune réserve. Fantastique. Il nous faut plus de politique, à mon avis. Pour le moment, on n'a que Michel Rocard chez les socialistes et Bernard Stasi pour l'UDF. Mitterrand, vous avez demandé à Mitterrand? Oui, Bernard-Henri Lévy l'a contacté, c'est non. Il vient de gagner les municipales. Il ne veut pas risquer de rater ses négociations avec le Parti communiste pour son programme commun.
Et il n'y a pas que Mitterrand qui manque à l'appel. Des philosophes qui comptent, comme Gilles Deleuze ou Régis Debray, ne veulent pas en être non plus. Pour les mêmes raisons que le Parti communiste, ce sont des bourgeois qui fuient le Vietnam. Ça n'est pas le peuple. Le raisonnement est tordu et il est totalement décomplexé. Comme dans cette interview du rédacteur en chef du journal L'Humanité, René Andrieux, sur Europe 1, avec Yvan Levaille.
Vous savez qu'ils ont payé à des trafiquants 1 million de francs pour partir. Eh bien, je vous assure que le Vietnamien moyen, qui gagne environ 20 000 francs par mois, qui a un niveau de vie extrêmement bas, ne peut pas se payer un voyage de ce genre. C'est-à-dire que il y avait au Vietnam...
Quand on se noie parce qu'on quitte son pays, oui. Je crois que peu importe l'origine, son origine sociale, non?
En face, Bernard Kouchner, qui a coupé depuis longtemps les ponts avec les communistes, s'insurge.
Ce qui est fantastique avec le Parti communiste, c'est qu'il a même accepté qu'il y ait des dissidents soviétiques. Pourquoi pas? Il le reconnaît, il parle à la télévision avec eux. Mais le Vietnam, c'est le dernier bastion. Le Vietnam, non, celui-là, il ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'ils fuient, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils fuient? Ils ont peur, véritablement, pour que des femmes et des enfants s'embarquent ainsi sur des carcasses. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose à fuir, n'est-ce pas?
Et le 22 novembre 1978, Bernard Kouchner et le comédien-chanteur Yves Montand lancent leur opération « Un bateau pour le Vietnam ». Au journal de 20h.
C'est quelque chose pour la première fois qui n'est pas, on peut le dire, politisé au sens strict du mot, qu'il y ait quelque chose qui fait qu'on se trouve dans une situation qui est inacceptable, en tout cas qui est inacceptable pour moi, où des gens meurent si on ne vient pas en aide, où cette nuit il y a encore 350 personnes qui se sont noyées, et où on essaie d'affréter un bateau sur lequel on pourra recueillir ces gens qui viennent du Vietnam pour essayer de les secourir.
Sur le plateau du JT, Kouchner annonce que pour lancer le bateau, il lui faut 20 000 francs par jour. Alors il donne une adresse à Gennevilliers où on peut envoyer un chèque. Et il assure que Médecins Sans Frontières sera de la partie. Mais en vérité, c'est loin d'être gagné. À la réunion qui suit, les copains d'MSF se révoltent. Le ralliement des vedettes a du mal à passer.
Mais c'est quoi ce truc ? Montand, Brigitte Bardot, vous avez sauvé les bébés phoques ? Et Luis Mariano, hein ? Vous l'avez pas eu, Luis Mariano ? Votre bateau, c'est un dîner en ville, c'est pas un sauvetage. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le France, hein ?
Et c'est là que l'un des fondateurs de Médecins Sans Frontières, Xavier Emmanueli, invente une expression qui restera et qui va coller au basque de Kouchner pour le reste de sa vie.
Bernard ! C'est plus un bateau pour le Vietnam, ton truc. C'est un bateau pour Saint-Germain-des-Prés, oui.
Et donc, Médecins Sans Frontières ne sera pas du voyage. Et Kouchner, au passage, claque la porte de MSF qu'il a contribué à créer. Mais toutes ces pérégrinations font perdre beaucoup de temps. Ça fait un mois que le comité Un bateau pour le Vietnam a été créé. Les dons ont commencé à arriver, mais il n'y a toujours pas de bateau. L'opération patine. C'est un témoignage venu du terrain qui va raviver le projet. Le philosophe André Glucksmann est allé avec sa femme Françoise en Malaisie. Il en rentre. Et là-bas, il a découvert une île, une toute petite île malaisienne de 1 km². Pulau Bidong, à 3 heures de bateau de la capitale, Kuala Lumpur. Un rocher couvert de jungle sur lequel le gouvernement malaisien entasse plus de 30 000 boat people vietnamiens. Glucksmann est rentré avec une évidence, c'est là qu'il faut aller.
Il n'y a plus rien sur cette île. Ils vivent entassés, les enfants se couchent le soir sur la plage, sur les excréments. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médicaments, rien. Et pourtant il y a des médecins hein, parmi les réfugiés. Il leur faut un hôpital. C'est insensé. Et si on leur apportait à l'hôpital ? Tu veux dire sur un bateau ? Oui, un navire hôpital. On va les soigner sur le bateau.
Bernard Kouchner est emballé par l'idée. Bien sûr, ça n'est pas le même projet qu'avant. On sauvera moins de vies qu'en parcourant la mer de Chine à la recherche de boat people. Mais c'est un beau projet. Et donc maintenant, il faut trouver d'urgence un bateau. Ça y est, on l'a trouvé, le bateau. Un armateur de Nouvelle-Calédonie propose de mettre à disposition un de ses navires, l'île de Lumière. Il faut dire que sa femme est vietnamienne. L'île de Lumière est un cargo, c'est un caboteur de 85 mètres de long qui fait d'habitude la liaison entre Nouméa, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mi-avril, l'île de Lumière arrive dans le port de Singapour. C'est un beau bateau blanc, le commandant est un Normand, rond, barbu, François Herbelin. Et maintenant, y a du boulot. Il faut en faire un hôpital. 5 médecins et une infirmière débarquent de Paris avec tout le matériel. Et dans la chaleur moite du port de Singapour, ils se mettent à aménager les cales. Ici, un bloc opératoire. Là, une salle de radiologie. Ici, un dortoir de 100 lits. Et à l'avant, dans les cales réfrigérées, la morgue et le stockage des médicaments. 50 ouvrières chinoises cimentent les ballasts qui seront remplis d'eau potable. Et le 19 avril 1979 au petit matin, l'île de Lumière arrive au large de l'îlot de Pulau Bidong. Ce minuscule îlot de Malaisie sur lequel s'entassent maintenant 34 000 réfugiés vietnamiens. Kouchner et les autres ont sorti les jumelles et ce qu'ils aperçoivent au loin est absolument stupéfiant. On ne voit même plus le sable de la plage. des milliers et des milliers de Vietnamiens s'entassent sur le rivage, des familles entières. Et du bateau, on entend leurs clameurs. Et plus le bateau s'approche, plus on sent leur odeur acre. Bernard Kouchner se tourne vers ses compagnons.
Et maintenant, on osera dire que nous nous sommes trompés?
L'île de Lumière met une chaloupe à l'eau et une première équipe, Kouchner en tête, accoste sur l'îlot. Les Vietnamiens crient de joie, ils applaudissent même.
Sur la plage, l'arrivée du groupe suscite évidemment une émotion, une curiosité très vive. Ce bateau, ces médecins, on les attendait, on les espérait depuis des semaines. Les premiers réfugiés, en majorité des femmes et leurs bébés, sont dirigés vers l'île de Lumière. Les jeunes enfants sont les premières victimes des conditions sanitaires effrayantes qui sévissent dans l'île. Il y a eu une épidémie de rougeole. Beaucoup sont atteints de gale.
Boulobidong ne fait que 1 km². La densité humaine y est incroyable.
Nous avons fait une maison en bambou et en arbre, en branches d'arbre.
Une maison pour combien de personnes ?
Pour une douzaine de personnes. 12 personnes.
Elle fait quelle surface, cette maison ?
À peu près 12 mètres carrés.
Ça fait 1 mètre carré par personne ?
Oui, mais à étage, surpiloté et à étage.
Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de place à Binong.
Là. Oui, il n'y a pas de place, mais nous sommes heureux d'être installés ainsi, puisque de vivre avec les communistes.
Le problème majeur, c'est l'eau. L'armée malaisienne ne livre de l'eau que 2 fois par semaine. Alors les réfugiés creusent le sable pour faire remonter de l'eau boueuse.
L'eau est très, très malpropre.
Elle est un peu jaunâtre, oui, elle a de la couleur
très
de la terre.
Jaunâtre, oui, l'eau de terre. Nous devons la faire rester très longtemps pour déposer les poussières, la terre, même une journée. Et puis nous devons faire filtrer à travers quelques étoffes pour avoir l'eau pure.
Et il continue d'arriver des bateaux tous les jours. Des miraculés. 1 million de Vietnamiens seraient morts en mer de Chine. Noyés dans la tempête, brûlés par le soleil ou tués par les pirates. Les pirates sont l'enfer des boat people. Ils se jettent sur les bateaux. Ils savent que les Vietnamiens ont emporté avec eux toutes leurs économies, de l'or qu'ils ont souvent cousu dans leurs vêtements. Alors ils les dépouillent jusqu'au dernier gramme d'or et ils les abandonnent à leur sort. Et Bernard Kouchner rentre à Paris parce que maintenant, il lui faut de l'argent. Il rentre pour mobiliser les donateurs.
Chaque jour, nous apporte son lot de malades sélectionnés par les médecins vietnamiens qui comprennent une pathologie absolument fantastique, c'est-à-dire des tuberculeux au stade presque terminal, malheureusement, des fièvres typhoïdes, des bronchites, des diarrhées extraordinaires, de la malnutrition chez les enfants.
Et les chèques affluent. Et il n'y a pas que ça. Des dizaines d'autres journalistes que ceux d'Antenne 2 qui sont là depuis le départ veulent aller sur place. L'île de Lumière a réussi à braquer l'attention de l'Occident sur le sort des réfugiés de Boulobidong. Mais en juin, la Malaisie fait une annonce spectaculaire. Elle ne veut plus de Vietnamiens. Elle n'en veut plus aucun. Elle veut les remettre à la mer, ce qui revient à les condamner à mort. Et l'équipe de l'île de Lumière va profiter des caméras qui sont braquées sur elle pour lancer l'acte 2 de son opération. Tenter de convaincre le gouvernement français d'accueillir tous ces gens en France. Il faut convaincre Giscard d'Estaing. Kouchner est donc rentré en France et il organise une grande sauterie à l'hôtel Lutetia à Paris. Son idée est de mobiliser quelques grandes consciences pour faire plier Giscard. Le comédien-chanteur Yves Montand est en première ligne.
Il est inadmissible qu'on assiste à un Auschwitz liquide. Quand on ne savait pas, on avait certaines excuses, là on sait. Alors il faut essayer de faire quelque chose. Nous avons envoyé ce bateau, on s'est foutu de nous. Bon, on a fait quand même quelque chose, dérisoire, mais on l'a fait. Plutôt que de rien faire du tout. Il y a des gens qui sont en train de crever et qu'il faut essayer de sauver, c'est tout.
Yves Montand, c'est pas mal. Mais Kouchner a 2 autres cartes dans sa manche. Il a aussi fait venir le philosophe Raymond Aron, libéral, de droite, anticommuniste, Aaron est parfaitement à sa place. Mais ça n'est pas tout. Il attend un autre invité qui d'ailleurs se fait un peu attendre. Jean-Paul Sartre. 10 ans que le philosophe n'a pas parlé publiquement. Sartre a 73 ans, il est quasiment aveugle, lui et Raymond Aron sont fâchés depuis 30 ans. Si Kouchner parvient à les mobiliser côte à côte pour les Boat People, d'abord ça va faire une sacrée photo, et Giscard ne pourra pas dire non. Et d'ailleurs, voilà Jean-Paul Sartre qui arrive. La salle fait « Oh !» La salle fait « Ah !» Et Jean-Paul Sartre tend la main à Raymond Aron. Et la photo est là. Et Sartre, qui jusque-là apportait un soutien sans faille à tous les régimes communistes de la Terre, prend la parole.
J'ai toujours été ami des Vietnamiens et j'ai considéré que leur situation actuelle était épouvantable et qu'il fallait que tous les Français interviennent. Il ne s'agit pas de politique ici. Je vous dirais même que politiquement, on ne va pas chercher les opinions de ces hommes qui ont pu être contraires aux nôtres autrefois. Ils n'aiment pas le régime, certainement, qui est établi, mais cela ne nous regarde pas. Ça regarde eux et les populations vietnamiennes. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des hommes en danger mortel, et ce sont ces hommes qu'il faut secourir parce que ce sont des hommes.
Le ralliement de Jean-Paul Sartre à la cause de l'île de Lumière va beaucoup peser sur la suite. Le 26 juin 1979, Giscard invite le comité de l'île de Lumière à l'Élysée. Et Giscard hésite. Il s'adresse à Sartre.
Et vous, qu'en pensez-vous, maître ? Le premier des droits de l'homme, monsieur le président, c'est le devoir pour certains d'aider les autres à vivre.
Glucksmann prend le relais.
Monsieur le président, il y a plus de 80 000 réfugiés en Malaisie. Ils sont en train de tous les remettre à la mer. Si on ne fait rien, ils vont tous mourir. Très bien. Nous en prendrons 2 500. Tous ceux que l'île de Lumière pourra ramener.
C'est un feu vert. Et dans la foulée, Jacques Chirac, maire de Paris, propose d'en accueillir 2 000 de plus. Et François Mitterrand annonce que 20 000 places sont ouvertes dans les villes socialistes. La politique, toute la politique, vient de basculer du côté des Boat People. Enfin! Et l'île de Lumière, qui était jusque-là un bateau-hôpital, va devenir ce que Kouchner rêvait d'en faire depuis le début. Un bateau de sauvetage. Un bateau qui va repêcher les réfugiés refoulés par la Malaisie et les ramener en France.
En mer de Chine, les cargos, les pétroliers, tous les navires de commerce ont pour consigne de ne pas répondre aux appels de détresse de Vietnamiens. Alors les premiers à fouler le pont de l'île de Lumière se laissent tomber de joie, d'épuisement. Ils sont sauvés.
Pendant des semaines et des mois, l'île de Lumière parcourt la mer de Chine. Il recueille à bord des grappes humaines épuisées, mais sauvées. Et en France, où l'on se moquait encore il y a quelques mois de l'opération, l'accueil des réfugiés se prépare. Et le 10 juillet 79, 3 avions en provenance de Malaisie atterrissent à Roissy. Le premier est affrété par le Secours catholique, le second par la ville de Paris et le troisième par le Parti socialiste.
Sans doute pour éviter que tous ces réfugiés se mélangent, l'aéroport de Paris a échelonné les arrivées de demi-heure en demi-heure et diriger les réfugiés de Jacques Chirac sur le satellite numéro 1 et ceux du Parti Socialiste sur le satellite numéro 4. Accueil sobre de la part du Secours catholique, ce n'est pas la première fois que cette organisation ramène des réfugiés en France. Accueil un peu moins sobre du côté de la mairie de Paris. Tout l'état-major de Jacques Chirac était là, Madame Bernadette Chirac aussi, et on s'intéressait plus aux maires de Paris qu'aux réfugiés eux-mêmes. Des réfugiés qui regardaient toute cette agitation sans comprendre.
Et c'est là, dans le satellite numéro 1, que Bernadette Chirac repère une petite fille, seule, en larmes. Elle s'appelle Anne Dao, et les Chirac l'accueilleront chez eux. L'épopée de l'île de Lumière va se poursuivre pendant des mois. La France accueillera au total 124 000 réfugiés vietnamiens.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui comment s'est imaginé, conçu et déroulé l'opération Île de Lumière à la fin des années 70, du nom de ce bateau qui s'est porté au secours des boat people vietnamiens qui fuyaient la prise de pouvoir par les communistes dans leur pays. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec Bernard Couchetère qui a été l'un des principaux instigateurs de cette opération de secours humanitaire. Bernard Kouchner, il y a bien sûr ce contexte politique particulier qui ne nous appartient pas de juger à la lumière de ce que nous vivons en 2018, simplement de décrire et de raconter. Il était compliqué dans les années 70, bien que Solzhenitsyn ait publié son archipel du Goulag, on savait que le communisme avait trahi le bien du peuple, mais néanmoins une partie de la gauche renâclée à considérer qu'il était légitime de fuir un régime communiste. C'est ça, hein. C'est dans ce contexte-là qu'il vous faut convaincre, quoi, à l'époque.
Oui, dans ce contexte-là, mais enfin, c'était un problème humain, c'était pas un problème politique. Tous les Vietnamiens qui fuyaient n'étaient pas des bourgeois, comme l'a sombrement dit le communiste de service,
qui, hélas, n'est plus de service. Oui.
Mais c'était pas notre problème. La gauche et la droite étaient réunies. Et surtout dans le comité, considérer la liste, c'était tout à fait exceptionnel. C'était pas pour faire plaisir à la gauche ou pour faire plaisir à la droite, c'est parce qu'il fallait faire quelque chose. Et je m'étonne, toujours aujourd'hui, qu'on ne fasse pas plus en Méditerranée.
Oui.
Et qu'on ait choisi un discours qui ressemblait à celui du Front National ou au nationalisme et plus que ça, au racisme qui monte. Parce que la mer Méditerranée, c'est pas la mer de Chine. Nous étions à 12 000 kilomètres et nous avons envoyé 7 bateaux. L'île de Lumière,
c'est le premier. Voilà.
Mais là, nos enfants jouent sur le sable de la Méditerranée. On a envoyé deux fois, petitement, un bateau, parce que vous savez, notre flotte est à Toulon, c'est pas loin. Et puis, surtout, je me réjouis que, longtemps après ces insultes que nous avons reçues, et qui sont légion en France, et Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde aient chacun un bateau en mer Méditerranée.
Revenons à 1978. C'est vrai que Mitterrand traîne des pieds parce qu'il négocie un accord politique avec les communistes ?
Jamais entendu de parler de ça, mais enfin, il n'a pas signé.
Il n'a pas signé ?
Non.
Il a rejoint l'opération plus tard, en 79 ?
Oui, parce que c'était impossible de ne pas rejoindre cette opération mondiale. Non, mais parce que profondément, François Mitterrand, j'en ai parlé avec lui, pensait que nous avions raison. Simplement, politiquement, la période, là, vous avez raison, était un peu fragile entre la gauche et la droite. Et il construisait l'union de la gauche.
Alors... Il préparait 81. Oui. Vérité. Vous lui en avez voulu, sur le moment ?
Oh, sur le moment, on a trouvé ça scandaleux qu'il ne signe pas. Mais enfin, il avait fait signer Lionel Jospin, premier secrétaire avait signé. Enfin, le deuxième, numéro 2, ça nous a plu. Enfin, vous savez, c'était pas le problème. Le problème, c'était d'aller sauver ces gens en mer de Chine.
En même temps, l'argument selon lequel les Vietnamiens du Sud, en tout cas ceux qui sont partis les premiers, étaient les plus riches, n'était pas faux. Il est vrai que ceux qui avaient quelque chose à sauver, notamment de l'argent à sauver, sont partis avec leur qui d'or cousu dans leurs vêtements.
Ça n'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, vous savez, les gens de Poulobidon, je les connais bien, et ceux d'après aussi, parce que nous avons été aux Anambas, nous avons été dans toutes les îles. Bon, non, c'était des pauvres types. Voyons, ils avaient peur, ils sortaient des camps pour un certain nombre d'entre eux, et certain nombre d'entre eux, nous avions travaillé avec eux, parce qu'en 75, j'étais à Saïgon, à la chute de Saïgon, et c'était nos amis, ils n'étaient pas riches du tout. Mais non, il y en a, évidemment, c'est plus facile de payer un passeur quand vous avez de l'argent que quand vous n'en avez pas, mais ils voulaient partir, vous savez, il y avait des familles qui apportaient leurs enfants sur la plage, qui avaient payé les passeurs, mais qui ne voulaient pas les accompagner, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas d'argent.
Donc ils payaient pour les gamins, mais pour eux, ils n'y arrivaient
pas. Mais ils n'en avaient pas, ils vous seraient évidemment bien voulu partir avec les enfants, mais non, ça c'est une caricature. Ils fuyaient parce qu'ils ne pouvaient pas vivre là-bas.
Et le refus de Médecins Sans Frontières de s'associer à cette opération...
Chacun peut être stupide.
Je sais que c'est vos... c'est quelque chose qui vous a blessé à l'époque, ça a entraîné la création de Médecins du Monde et votre séparation d'avec Médecins Sans Frontières. Mais quelle est la raison à l'époque ?
C'est des petites gens, laissez tomber. Ça n'a aucune importance.
C'était une bataille d'égo.
Non, une bataille de jaloux.
Oui.
De jaloux et surtout de prise en charge de la responsabilité de la direction de Médecins Sans Frontières. Après, ça s'est avéré comme ça, mais franchement, n'en parlons plus. Ça n'a aucune importance.
Ce procès qu'on vous fait, ce bateau pour Saint-Germain...
Je les emmerde, écoutez, ça suffit, vous l'avez dit deux fois, ça va.
Non.
Je crois avoir prouvé dans ma vie que j'habitais pas à Saint-Germain-des-Prés.
Oui, mais bon. Ce sont des gens...
Mais non, ils ont fait ça une fois, ils le regrettent, le pauvre Emmanueli.
Il le regrette.
Mais enfin, j'en sais rien, j'espère pour lui.
Votre idée au départ, c'est d'affréter un bateau pour secourir les gens en mer.
Oui.
Qu'est-ce qui rend cette chose-là impossible et qui va donc vous amener à vous rapatrier sur Pulau Bidong et au début à concentrer vos efforts sur Pulau Bidong?
Eh bien, deux choses. D'abord, c'était pas mon idée, ça a été vraiment très collectif, ce comité bateau pour le Vietnam, et c'était notre idée. Mais il faut comprendre, quand on part en mer, on est un Vietnamien qui fuit le pays.
Oui.
Et le droit international vous reconnaît la qualité ou l'horreur d'être Vietnamien, mais vous n'êtes pas un réfugié. Pour être réfugié, on a besoin d'arriver sur la terre, et là, qu'il y ait un bureau du HCR, au commissariat réfugiés des Nations Unies, qui vous accepte comme migrant et demandeur d'asile. En mer, figurez-vous, vous n'avez pas le droit d'imaginer une opération internationale, et pourtant il y a un droit de la mer, il y a un droit international, mais vous n'avez pas le droit de les prendre parce que vous êtes un bateau français, vous avez le devoir de les secourir, mais vous ne pouvez pas les prendre et espérer les faire partir quelque part sans qu'ils soient sur la liste des réfugiés. Et donc nous avons vu plusieurs fois le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, et c'est simplement en inventant dans son bureau l'idée de l'ambulance de la mer, qu'il a dit, dans ces cas-là,
Si c'est une ambulance, ça va, mais si vous les ramassez dans toute la mer de Chine, c'est pas possible.
Si vous les ramassez, vous les gardez à bord. Alors, quand vous allez 12 000 km à faire pour les ramener au Havre, c'est quand même un peu long. Et donc, c'était pas possible. Et cette idée du bateau à Putal nous permettait, parce qu'il y avait un vrai besoin, un besoin immense sur Pulau Bidong, nous permettait de nous préparer pour repêcher ensuite. C'est une histoire magnifique, parce que nous avons construit en bois un hôpital sur
l'île.
Oui, sur l'île de Pulau Bidong, et cet hôpital a fonctionné.
Monsieur Kouchner, à un moment donné, il s'agit donc de convaincre Giscard d'Estaing d'accueillir en France plus de réfugiés que la France n'en a déjà accueilli. Elle en a déjà accueilli 50 000, et vous souhaitez qu'elle en accueille encore plus. Au total, 120 000 Vietnamiens s'installeront dans notre pays à la fin de cette histoire. Quelles sont les données du problème à l'époque? Giscard doute de la capacité de 120 000 Vietnamiens à s'intégrer à la société française?
Non, d'abord, on en a pris 300 000, je voulais
vous dire. Au final, à la fin, oui.
Mais autour de l'île de Lumière, oui, il y en a eu 122 000, je crois, ou 132 000. Eh bien, il fallait le convaincre, parce que, en effet, le président de la République peut décider. Non, mais je ne doute pas de... Il était très étonné. Mais vous savez, cette réunion dont vous avez parlé, d'abord, c'est Michel Foucault qui l'a organisée. Et puis, moi, je connaissais Jean-Paul Sartre. Glucksmann a convaincu Raymond Aron. Il y a eu d'abord une réunion publique qui a formidablement marqué. C'est comme ça, maintenant, nous n'avons plus ces intellectuels-là. Enfin, pas les mêmes, en tout cas. Mais c'était un choc. C'était déjà la réconciliation. Sur le vif, si j'ose dire, sur
le
vivant.
Et Aron se réconcilient.
Ils ne sont pas vraiment réconciliés, mais ils se sont serrés la main et ils étaient ensemble pour faire ça. Donc il fallait aller... Moi, j'étais reparti le soir même pour Pulau Bidong, et donc je n'ai pas assisté à la réunion de l'Élysée, mais je sais qu'une question surprenante de Valéry Giscard d'Estaing a été de dire « Mais pourquoi fuit-il ?» Alors, on lui a expliqué qu'ils ne pouvaient pas vivre et qu'ils étaient dans des camps, ils étaient plus que malmenés, et il a compris ça et il a accepté.
Mais
il y a eu tellement de fracas et dans le monde autour de ce bateau qu'il a ouvert le chiffre et qu'on en a pris beaucoup plus.
Au début, il dit 2000. Hein.
Oui, il dit 2000 parce qu'on était à peu près... le bateau arrivant à Singapour, il y avait...
850 personnes à bord, je crois.
Oui,
le premier voyage arrivé à Singapour.
Oui, vous savez, deux, c'est beaucoup parce qu'il n'y a pas de place. Hein. c'est un enchaînement des choses, mais toute cette histoire est politique, l'humanitaire est toujours politique. Si on avait fait cette intervention d'une autre nature, en Syrie, il n'y aurait pas eu 400 000 morts. Eh bien, on avait dit non. Et maintenant, il y a des gens qui pensent que c'est l'humanitaire qui crée les guerres. Alors, il y a un certain nombre de gens tordus, vous savez.
Les données du débat, c'est quoi? On sort quand même d'une grosse crise économique, d'ailleurs on n'en est pas vraiment sorti. Est-ce que l'idée c'est on ne peut pas intégrer ces réfugiés parce qu'il y a du chômage en France?
Mais c'est pas vrai, ils trouvent du travail, eux. Mais c'est complètement faux.
Mais est-ce que ça fait partie du débat à l'époque?
Mais non, ça fait pas partie du débat. Voyons, il s'agit de sauver une vie. Il s'agit pas de trouver du travail. Bien sûr, on trouve du travail. Après, et c'est maintenant, c'est pareil. Madame Merkel, qui a été la seule généreuse d'Europe avec les Suédois et avec aussi des pays du Nord, elle en a accueilli beaucoup trop d'un seul coup, c'est vrai. Mais d'abord, c'est son honneur et c'est l'honneur de l'Europe. Deuxièmement, c'est parce que les autres n'ont pas voulu. Vous croyez que c'est franchement l'image de la France, soi-disant pays des droits de l'homme, doit mettre des CRS à la frontière avec l'Italie. Vous savez combien il y en a en Italie? Il y en a 640 000. Et nous, on en a pris 5000. Alors voyons, soyons un peu... Si on n'est pas honteux, soyons raisonnables.
Et vous avez vu le prix politique qu'a payé Angela Merkel, qui se retrouve
oui, justement, elle est
fragilisée
très courageuse
aujourd'hui.
Et si on avait partagé le fardeau à 27 pays, il y en aurait eu très peu. Parce que vous savez, il y a quand même 550 millions d'habitants en Europe. Alors c'est pas parce qu'on en prend 1000, ça fait 1 sur 550.
Mais les gens vous diront, je les entends à l'autre bout du poste, les Vietnamiens se sont bien intégrés, il n'est pas sûr que les Syriens aient... Tous ceux qui font ce voyage s'intégreront aussi bien.
Ils se sont intégrés. Et deuxièmement, il y avait plein de choses à faire. Moi, j'ai proposé qu'on reprenne les villages perdus. Ça s'est fait en Italie, ça a très bien marché. J'ai proposé qu'on ait, de toute façon, un meilleur accueil pour eux. Ben, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce que vous voulez je vous dire? Je vois le racisme monter et je vois la générosité décroître.
Mais vous avez vu aussi Angela Merkel, très affaiblie politiquement, qui a mis 6 mois à constituer un gouvernement.
Très affaiblie et très courageuse, elle a quand même un gouvernement. Mmh. Et nous, on n'a pas essayé et on a perdu quand même.
Mmh. Oui, donc vous en voulez à François Hollande sur ce plan-là?
Je lui voue pas une admiration folle à ce propos, ça non.
Mais lui comme les autres. Finalement, personne dans la dernière campagne électorale n'a proposé d'accueillir des migrants.
Mais parce qu'il y avait cette propagande anti-migrants qui nous prenait notre travail et qui étaient des méchants qui allaient attaquer toutes les femmes, comme si on ne s'est pas aperçu en France que c'était les Français qui attaquaient les femmes. Mmh. Hein. Je ne compare pas, mais quand même. Et donc, oui, moi j'étais très choqué, et plus que choqué, j'ai hurlé partout, mais j'étais pas entendu, bon, que c'était chez nous qu'on avait le devoir d'aller en mer Méditerranée. Il en est mort, peut-être moins qu'en mer de Chine, mais il en est mort des milliers et des milliers devant nos yeux.
Il n'y a jamais eu d'autre opération de ce type-là?
Si. Aussi. Il y a eu une opération qui a joint, il y a eu un bateau allemand qui s'appelait le Cap Anamur, et il y a eu un bateau norvégien qui s'est tapé curieusement, pas exactement la traduction, mais l'île de lumière norvégien. Monsieur Nansen, qui est le petit-fils de celui qui avait fondé le HCR.
Qu'est-ce que l'île de lumière a changé dans l'histoire de l'humanitaire?
Moi, vous savez, il y a des gens qui changent jamais, donc ils diront que rien n'a été changé. Moi, je pense que l'humanitaire et la politique doivent marcher l'amble, marcher ensemble. Et bien sûr que je ne veux pas résoudre tous les problèmes de la Terre avec l'humanitaire, ni avec la politique. Mais il faut se combiner une approche plus humaine, plus tendre et moins meurtrière. Et donc, encore une fois, je prends l'exemple de la Syrie parce que c'est devant nous. On pense que le convoi humanitaire, après des mois et des mois et 4 ans de combat dans la Ghouta, est arrivé. Mais non, il est arrivé à l'endroit où les Syriens ont libéré, comme ils disent, la Ghouta. Il n'est pas allé dans les combats. On a régressé.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.